Avec cette autre question qui préoccupe les Français en ce moment, y aura-t-il du foie gras à Noël? Alors, est-ce qu'il y aura tout d'abord la possibilité éthique d'en manger ou pas, puisqu'un certain nombre d'entre nous ont décidé de ne plus manger de foie gras? Est-ce qu'il y en aura parce que la question du pouvoir d'achat se pose? Pour en parler, je suis en compagnie de Manon Dugré. Bonjour, vous êtes coordinatrice de projet d'éducation et de sensibilisation à l'alimentation à la chaire ANCA, chaire partenariale d'AgroParisTech, et vous avez coordonner la BD numérique Manger vers le futur. À côté de vous, Pierre Hiverna. Bonjour, vous êtes journaliste, directeur de la rédaction du magazine en ligne Alimentation Générale, chroniqueur dans l'émission Les Bonnes Choses de ma camarade Caroline Brouessé le dimanche. Pierre Hiverna, on parlait tout à l'heure de cette loi alimentation, une loi alimentation qui est censée préserver ou augmenter le niveau de vie des agriculteurs, qui du coup va encadrer les promotions, et encadrant les promotions risque de diminuer cette fois-ci le pouvoir d'achat des Français et d'augmenter leur budget alimentation. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense d'abord que la loi alimentation, faut jamais oublier qu'elle a été précédée des états généraux de l'alimentation. Donc il y a eu une concertation absolument gigantesque qu'on n'a jamais eue avant. Et ça, on peut dire que c'est quelque chose de très positif, parce que tous ceux qui ont présidé des ateliers, il y avait 14 ateliers, ils ont tous le même discours. Ils disent, on a vu autour de la table des gens qui ne se parlaient pas avant, qui se parlent. Donc moi, je trouve que c'est une loi qui a eu au moins cette vertu. Dans un monde où il y a les bons et les méchants, c'est toujours blanc et noir dans l'agriculture. Mmh. Donc je pense qu'il y a eu quelques dialogues qui se sont noués et qui aujourd'hui, des gens se retrouvent autour de la table qui n'y s'y retrouvaient pas. Alors maintenant, est-ce que la loi elle-même est positive ? Bon courage à celui qui va la mettre en place, le ministre que vous avez invité tout à l'heure, parce que lui se retrouve en gros à revoir 40 ans de politique. Donc 40 ans de politique à revoir en une seule loi, excusez du peu, mais c'est un job.
Avec quel problème ? Alors on va peut-être pas les égrener un par un, puisque 40 ans de problèmes politiques, c'est long, mais malgré tout, s'il fallait dessiner des tendances, Pierre Hiverna.
S'il faut dessiner des tendances, il y en a plusieurs, mais moi j'en vois une qui ne dépend pas des agriculteurs et qui me semble massive, c'est la tendance des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est les consommateurs qui poussent, qui font pression sur des problématiques de santé, sur des problématiques de sécurité alimentaire, et ces problématiques viennent pas prendre le pas, mais elles sont de plus en plus importantes par rapport à la dimension du prix, qui était le moins cher du moins cher du moins cher, c'est la seule politique marketing de la distribution. Or, on voit bien qu'ils sont en train de reprendre un tout petit peu ça.
Aujourd'hui, effectivement, il y a une évolution à cet égard, une évolution que vous connaissez bien, Manon Dugré.
Oui, effectivement, et c'est vrai que la place de la viande dans nos assiettes et sur nos tables dans les années à venir, on peut se la poser, et je pense que la question est encore plus légitime sur la question du foie gras. Quand on voit les tensions, on va dire, sociales, économiques, environnementales et nutritionnelles autour de la viande, pour le foie gras, on va dire que c'est encore plus exacerbé quand on sait que la question du bien-être animal est centrale pour la question du foie gras. Alors, une petite précision quand même sur la production du foie gras, quelque chose que j'ai appris récemment. Un foie gras n'est pas forcément un foie qui est malade. En fait, les oies et les canards sont des oiseaux migrateurs qui naturellement se suralimentent et donc stockent du gras pour pouvoir puiser dans ces stocks pendant les longues périodes de migration. Donc, ce qui fait que le gavage, finalement, c'est reproduire un phénomène naturel, on va dire. Après, la question du gavage reste une question qui peut poser question. Et donc, la question de la manière dont c'est produit, finalement, est centrale. On n'est pas obligé de rendre le foie malade et donc l'animal malade pour produire du foie gras.
Mais on voit en tout cas que ces questions qui, jadis, étaient perçues comme marginales, c'est-à-dire les voyait en France, par exemple, la question donc de cesser de manger de la viande ou d'en manger moins paraissait farfelue il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est au devant de la scène. Elle est devenue très commune. Comment ça s'est passé, Manon Dugré ?
C'est vrai que on va dire qu'autrefois le consommateur se posait pas tellement de questions sur son alimentation. On va dire que ce qu'il mangeait au sein d'une famille, c'était généralement à peu près la même chose, et la culture était très forte, les normes alimentaires étaient très fortes, donc il y avait le repas du vendredi où on mangeait du poisson et tout ça était très normé. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans ce contexte. Le consommateur est un petit peu perdu, il y a énormément de choix alimentaires et il se pose de plus en plus de questions, il a de plus en plus de préoccupations effectivement sur son impact sur sa santé et aussi sur l'environnement. Donc il est très sensible à ces questions.
Pierre Hiverna.
J'ajouterais deux choses, j'ajouterais deux crises majeures. La crise de la vache folle dans les années 90, qui a quand même sérieusement choqué le consommateur, oui. Se disant que se passe-t-il, peut-être que ce qu'on mange n'est pas tout à fait bon pour notre santé. Et puis, rappelez-vous, la viande de cheval dans les lasagnes.
On s'en souvient bien.
Voilà, alors ça produit quoi ? Mais ça produit une chute de la confiance. Et cette chute de la confiance, elle a été, on peut parler marketing, hein, parce que elle a été reprise par des gens du marketing qui sont très bons sur les problématiques de santé et qui tout d'un coup ont produit un certain nombre de choses qui sont des substituts à la viande, et on voit bien que ce marché est en train de bouger parce que les gens ont peur, voilà, tout simplement. Et donc, ces deux crises, il faut jamais les oublier dans la problématique de la viande.
A-t-on raison d'avoir peur ? Là, la question est pas générale, mais auparavant, dans les années 50 en France, il y avait, je crois, 3000 morts par an d'intoxication alimentaire. En France, ce chiffre a considérablement décru. Alors peut-être que les effets à moyen terme de notre alimentation sont aussi délétères, mais il y a quand même une attention beaucoup plus grande, Pierre Hiverna, qui est portée aujourd'hui aux caractéristiques sanitaires de nos aliments.
C'est clair. On a un instrument de mesure. Je parle d'un instrument pour les gens, c'est-à-dire pour 95% de la population, pas ceux qui ont le privilège d'aller acheter dans leur petit marché, locavore, etc., etc. On a un instrument de mesure qui s'appelle le CIAL. Le CIAL, c'est le Salon international de l'alimentation et de l'innovation alimentaire qui, tous les deux ans, est à Paris. Et ce salon, il permet de regarder quelles sont les tendances, qu'est-ce qui va se vendre dans les 2-3 prochaines années dans les supermarchés et les hypermarchés. Rappelons quand même que les Français font leurs courses pour 75% d'entre eux dans les supermarchés. Et donc on voit bien dans ce salon, le dernier à Paris, donc au mois d'octobre dernier, on a bien vu que les produits qui arrivent maintenant sur le marché, qui vont arriver sur le marché, sont essentiellement étiquetés en termes de publicité, en termes de marketing, sur santé. Voilà. Alors soit il y a des oméga 3, soit il y a de la vitamine B12, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un argument qui va être majeur dans les années qui viennent.
Manon Dugré.
Oui, alors c'est vrai que ces crises n'ont pas vraiment aidé. Et puis l'industrialisation de l'alimentation a fait que peu à peu, le consommateur s'est vu un peu dépossédé de l'acte alimentaire. C'est quelque chose qui s'est distancié. Il ne sait plus vraiment comment l'aliment est produit, d'où il vient, etc. Donc c'est vraiment une angoisse qui est légitime. Et puis avec les crises et tout ce discours assez anxiogène qu'on entend aujourd'hui sur l'alimentation, on peut aisément le comprendre. Et c'est vrai que ces tendances dont vous parliez tout à l'heure et l'émergence des nouvelles pratiques alimentaires, c'est un peu une réaction à tout ça. C'est une façon pour les consommateurs aussi de se réapproprier son alimentation. On voit chez certaines personnes qu'elles vont s'imposer un régime parfois très strict. Le régime sans gluten, c'est un bon exemple. Parfois, on n'a pas besoin de preuves pour s'imposer ce régime-là. Et c'est, mine de rien, une façon de se réapproprier, de reprendre le contrôle sur son alimentation, quelque chose qu'on peut avoir l'impression d'avoir un peu perdu ces dernières années.
Et une manière de se réapproprier son alimentation avec là aussi des préoccupations qui sont quand même des préoccupations tout à fait nouvelles, parce que donc le bien-être animal, des questions liées comme les répercussions de notre alimentation sur l'environnement, tout ça c'était parfaitement marginal. Par exemple la question de l'huile de palme, de ses conditions de production, du commerce équitable. Manon Dugré, ça ce sont des préoccupations nouvelles.
Oui, le consommateur peu à peu a pris conscience qu'il avait un rôle important à jouer, et je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce qui génère actuellement une évolution aussi de l'offre et du paysage alimentaire. Donc pour moi les répercussions sont très positives sur l'industrie agroalimentaire, sur la distribution, qui du coup se retrouve un petit peu obligée de plus de transparence et d'une amélioration de son offre alimentaire.
Plus de transparence ou plus de manipulation, Pierre Hiverna, puisque ce que vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez ça a été pris en charge par le marketing. Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui une habileté des producteurs, des distributeurs aussi, pour nous faire croire que notre alimentation est plus saine, plus équilibrée qu'hier ?
Ça, habile, ils le sont. incontestablement. Quand on est sur un marché, qu'on est commerçant et qu'on est un industriel par ailleurs responsable, parce que il faut aussi le souligner, la plupart des industriels de l'agroalimentaire, ils ont un certain nombre d'emplois à gérer, un certain nombre de personnel, et une entreprise qui va dans le mur, c'est jamais une entreprise intéressante, et c'est pour eux une responsabilité très très forte. Donc est-ce qu'ils manipulent, est-ce qu'ils jouent des jeux du marketing? Je dirais, comme tout commerçant, il essaye de vendre ses produits. Aujourd'hui, ils sont plus, me semble-t-il, dans la problématique de vendre ce qu'ils vendaient avant. Ils sont dans la problématique de voir des chutes de ventes énormes. Par exemple, vous avez tous, enfin, je ne sais pas si vous l'avez, mais on a tous ces applications où vous faites vos courses, application Yuka pour ne pas la citer, mais il y en a d'autres.
Hein. Une application qui permet de connaître voilà. La composition des aliments.
Voilà. Donc vous voyez des gens maintenant dans votre supermarché qui sont là en train de avec les codes-barres, ils analysent. Alors ils analysent, n'exagérons rien. Disons qu'ils ont quelques informations supplémentaires sur la qualité nutritionnelle ou sur des problématiques de santé d'un produit. Qu'est-ce qui se passe? Bah effectivement, si tout est au rouge et que la note c'est 2 sur 100, les gens, on les voit d'ailleurs, hein, ils prennent le produit, ils le remettent dans le rayon. Moralité, celui qui fabrique ce produit
est incité à en fabriquer un autre.
Bah c'est clair, il est incité à en fabriquer un autre, donc il regarde les analyses de ce que souhaitent les consommateurs, il fait évidemment son métier, et à partir de là, il va inventer un nouveau produit qui a priori va être meilleur du point de vue de la santé.
Manon Dugré.
Oui, pour rebondir, je pense que le travers de ce type d'application, même s'il il a le mérite d'apporter une réponse simple à des questions qui sont quand même assez compliquées, c'est d'avoir un discours qui peut être aussi un peu anxiogène, comme vous le disiez. Si tout s'affiche en rouge, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de... Voilà, l'alimentation devient quelque chose de très compliqué. Je pense que il faut peut-être partir de choses un peu plus simples, rééduquer le consommateur sur le fait d'être curieux vis-à-vis de son alimentation, se renseigner sur la manière dont il a été produit, sur les ingrédients qu'il contient, et avoir un peu de bon sens.
Mais ça aussi, la traçabilité,
quoi,
c'est quelque chose qui aujourd'hui est central. Hier, cela concernait juste quelques gourmets ou quelques personnes un peu particulières. Manon Dugré, c'est aujourd'hui une tendance lourde.
Oui, complètement, oui.
Alors, c'est une tendance lourde, d'autant plus qu'on a des instruments qui permettent aujourd'hui la traçabilité. Le principe de la blockchain, qui n'existait pas il y a ne serait-ce que 2 ans, en tout cas applicable. Alors la blockchain, pour aller très très vite sur l'explication de ce système, c'est un système qui permet de prendre un produit dès l'origine, de l'amener jusque dans le rayon où le consommateur va le prendre, avec une traçabilité de chaque information qu'on va pouvoir donner au consommateur, sauf que ce système est verrouillé, totalement verrouillé. Personne peut rentrer dans ce fichier-là. Donc ça, c'est le système de la blockchain. Aujourd'hui, IBM a signé très récemment un énorme contrat de partenariat avec un grand distributeur. On voit bien que ce partenariat va donner quelque chose dans les années qui viennent, voire dans les mois qui viennent, qui vont être un étiquetage qui va être beaucoup plus fiable pour le consommateur, parce que c'est un instrument de vente évident.
Un instrument de vente, un instrument aussi d'évolution des pratiques alimentaires. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Manon Dugré. Jadis, l'alimentation était quand même régie essentiellement par les coutumes. Vous disiez que dans les familles, on avait tendance plutôt à manger toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est à la fois très diversifié, c'est très changeant. Il y a des modes, et donc un renouvellement perpétuel. Et cela introduit de nombreuses modifications.
Oui, c'est vrai que on voit vraiment une individualisation des pratiques, donc des nouveaux régimes qui voient le jour, et c'est vrai qu'on peut y voir un phénomène de mode. Là où il y a une tendance lourde, je pense, c'est que c'est le fait d'adopter un nouveau régime, et c'est l'émergence de ces nouvelles pratiques alimentaires. C'est quelque chose qui va s'accentuer encore plus dans le futur. Donc,
la tendance commune, c'est que chacun en fait à sa tête, c'est ça?
Oui, enfin, disons que l'alimentation, c'est quelque chose d'identitaire aussi. Donc, c'est un moyen aussi de montrer son appartenance à un groupe. Et donc, c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer, comme je vous le disais aussi, parce que c'est un moyen de se réapproprier son alimentation.
Mais ça n'était pas tant que ça avant.
Non, pas du tout. Mais c'est la conclusion de tout ce qu'on s'est dit avant, quoi. C'est un besoin de se réapproprier les crises alimentaires, et donc ça se traduit par des nouvelles pratiques. Le bio, le sans gluten, enlever le lait de son alimentation, le local, etc.
Voilà, vous avez trois personnes à table, il faut quatre menus, quoi, à peu près. Pierre Hiverna.
C'est ce que je vais citer Claude Fischler, qui est un sociologue de l'alimentation, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Mais lui, il a travaillé d'un point de vue monde. C'est intéressant de regarder aussi la place de la France dans tout ce qu'on est en train de dire, parce que la France, c'est quand même très particulier, très spécifique, avec des choses qui nous caractérisent et qu'on trouve nulle part ailleurs. Je vais donner un seul chiffre. Combien de temps les Français passent à table ? Ce chiffre, c'est phénoménal, puisque bon, c'est une étude de l'OCDE, donc je suis pas en train de parler d'un petit sondage dans un coin, qui est sorti en mars, donc elle est récente. Les Français passent en moyenne 2h11 à table.
C'est beaucoup.
Hein, c'est quand même fabuleux. Alors, au dernier de la liste, les Américains, 1h01, c'est-à-dire la moitié, enfin moins de la moitié. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier une sociologie spécifique de la France dans ce monde-là. Et je cite Claude Fischler, parce que Claude Fischler, sur ce que vient de dire Manon, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit on avait un repas de communion, c'est eucharistique le repas, on partage le même pain. Donc on a cet aspect-là
maintenant,
des choses.
Il faut prendre du pain sans gluten.
Voilà, et maintenant il y en a un qui dit je prends du pain sans gluten, l'autre qui veut pas de pain du tout, parce qu'il est allergique au pain et la farine, je sais pas quoi. Donc effectivement, on est passé, dit Claude Fischler, je le cite probablement très mal, il ne m'en voudra pas, à un repas qui est de l'ordre de la communion, à un repas qui est de l'ordre de la contractualisation. J'aime bien cette idée-là.
Manon Dugré.
C'est vrai que la culture alimentaire sur ces aspects-là est particulièrement importante. Et il y a des choses qui n'évoluent pas très vite, notamment le repas à table. Donc c'est vrai qu'on ne mange pas forcément toujours la même chose. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer de plus en plus. Par contre, on mange toujours ensemble. En tout cas, on va dire, surtout sur le repas du soir, pas forcément le petit déjeuner, pas forcément sur le déjeuner, mais en tout cas, le soir, les gens encore se retrouvent autour d'une même table pour partager un repas qui peut être différent, effectivement. Mais c'est une nouvelle forme, en fait, de commensalité qui est en train de se développer. C'est-à-dire qu'on peut manger des choses différentes, mais on peut continuer de manger ensemble. Et puis, c'est vrai qu'il y a 10 ans, en France, on ne pouvait pas imaginer être invité et dire préciser son régime ou celui de son conjoint. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, bon, pas autant que dans les cultures anglo-saxonnes, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut réinventer. Peut-être qu'on amènera quelque chose, peut-être qu'on cuisinera ensemble. Ça va être quelque chose, de nouveau qui est en train de se développer.
En tout cas, ce qui est certain, vous parliez des peurs tout à l'heure, Pierre Hiverna. Ces peurs, elles évoluent parce que, alors, par exemple, sur les graisses, alors pendant un moment, il fallait à tout prix éviter les graisses animales, et les graisses végétales étaient les seules acceptables, et puis alors maintenant, on voit un retour des graisses animales. Bon, je n'imagine pas que cela s'inscrive dans le temps comme ça pendant longtemps. Il y aura bien un moment où on va nous dire qu'il faut arrêter tout ça. Ça, et cela oblige les gens, le marketing, bref, l'ensemble du système à changer tout le temps.
Oui et non, parce que je reviens à ce salon alimentaire. Ils font la différence, hein, ces gens-là, entre ce qui est de l'ordre de la tendance lourde et ce qui est de l'ordre de la mode. Alors si je reprends le sans gluten, d'ailleurs, c'est très très intéressant parce que le Cial d'il y a 2 ans, donc nous étions en 2016, c'est quand même pas si vieux, vous circuliez dans les allées du salon, il y avait du sans gluten partout. Pas compliqué, il y avait pas, c'était vraiment là. Tendance.
Et maintenant, vous le voyez régresser?
Absolument. Absolument. Ah oui, mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis.
Manon Dugré opine du chef.
Oui, je pense que je partage tout à fait ça. Et c'est vrai qu'au Cial cette année, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, on voit cette fois-ci des innovations qui sont des innovations de substitution aux produits carnés. Et c'est vraiment impressionnant.
Bon, c'est-à-dire on en voit déjà dans les supermarchés.
Oui, on en voit déjà, mais on va dire que c'est quelque chose qui explose aujourd'hui.
Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde. Vous voulez dire que le gluten, enfin plutôt le sans gluten, c'est une mode, tandis que la substitution donc de produits qui sont des produits à base de soja ou à base de blé pour supprimer la viande. Ça, c'est une tendance lourde.
Bah, aujourd'hui, on pointe du doigt les produits animaux et la viande comme étant responsables de tous nos maux. C'est vrai que voilà, sur les questions de santé, sur les questions environnementales, on entend énormément de choses négatives à ce sujet-là. Mais je pense qu'on a on aimerait bien avoir une réponse simple, encore une fois, et se dire si on supprime totalement la viande de notre alimentation, peut-être qu'on va résoudre tous nos problèmes. Je pense pas vraiment que ce soit
tous nos problèmes,
solution, mais en tout cas consommer davantage de on va dire que l'alimentation va se végétaliser, et ça c'est une bonne chose, puisqu'actuellement on consomme trop de produits animaux et trop de protéines, donc ça c'est une bonne chose, et c'est également une bonne chose que l'offre alimentaire s'étoffe à ce sujet. Il y a toute une gastronomie du végétal qui se développe également chez les chefs cuisiniers, et ça c'est quelque chose qui va se poursuivre, j'en suis sûre.
Pierre Hiberna.
Je suis complètement d'accord, et je rajouterai un élément qui n'est pas rien. Si je vous dis « Beyond Meat », au-delà de la viande, c'est le nom d'une boîte, américaine. Cette boîte américaine, elle vient de recevoir deux fonds, l'un qui est arrivé par Bill Gates, qui n'est pas un investisseur comme les autres, et l'autre, le patron de Virgin, Richard Branson. Ils ont tous deux mis 14 milliards de dollars dans Beyond Meat, qui va produire de la viande à partir de cellules souches. Le principe, c'est celui qu'on a trouvé, d'ailleurs, que les chercheurs ont trouvé pour soigner les grands brûlés. Quand on soigne les grands brûlés, on prend une cellule de votre cuisse ou je sais pas quoi, et on la greffe et on cultive cette cellule. Ils ont appliqué ce principe à la viande. Et quand vous voyez une boîte comme Beyond Meats qui reçoit 14 milliards de dollars pour investir sur de la viande qui n'est pas de la viande de synthèse, qui est de la vraie viande, en fait, faite à partir de cellules souches, encore une fois, vous voyez bien qu'il y a une tendance qui va être lourde, oui. C'est clair.
Et effectivement, une tendance lourde sur la suppression, la possibilité d'avoir des alternatives à la viande. D'autres tendances lourdes également, Manon Dugré.
C'est-à-dire que peut-être que la viande va changer un petit peu de place, en tout cas dans nos assiettes, puisqu'on sait que dans l'alimentation des Français, le steak occupe une part assez importante de l'assiette. Donc ça, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Peut-être que plus tard, le petit salé aux lentilles, l'ingrédient principal, ce sera les lentilles. Et peut-être que le petit salé, la saucisse, ça va être juste un condiment qui viendra donner du goût au plat. Alors là, je donne un exemple un petit peu caricatural pour illustrer ça. Mais en tout cas, le végétal va se développer. Là où il faut faire attention, c'est qu'il y a aussi des innovations de produits préparés végétaux qui peuvent être très mauvais, qui peuvent être assimilés à de la malbouffe.
Par exemple ?
Par exemple, on voit des steaks végétaux qui sont des steaks végétaux, des boulettes à base de lentilles, de légumes secs, de céréales, etc. Très bien, sauf que parfois cela se fait un petit peu au détriment de la santé, puisque ça va être parfois des produits dans lesquels il va y avoir un taux de graisse important, de sel, de conservateurs, etc. Donc il faut juste faire un petit peu attention à l'amalgame qu'on fait un peu trop souvent, végétal égale bon pour la santé, bon pour la planète, parce que c'est pas toujours le cas.
Le fait d'être de plus en plus locavore, autrement dit de prêter attention à la manière dont on s'approvisionne, donc avec des aliments qui viennent d'à côté, tout cela aussi c'est quelque chose d'absolument nouveau, Pierre Hiberna.
Oui, c'est nouveau pour une toute petite partie de la population. Oui, bien sûr, c'est formidable. Locavore, très bien. Pour la planète, c'est mieux. Il y a moins de transport. Parfait. Encore faudrait-il que locavore soit possible pour tout le monde. Or, ce qu'on constate, et c'est pas nous qui le constatons, c'est un phénomène d'urbanisation mondiale qui aujourd'hui prévoit que 2/3 des habitants de cette planète en 2050 habiteront dans des villes. La France est déjà au-delà de ça. À partir du moment où vous faites grossir les villes et donc diminuer la campagne, ou en tout cas faire en sorte que le rapport entre la ville et la campagne est compliqué et complexe, vous n'allez pas pouvoir faire locavore tout le temps. C'est une espèce de fantasme auquel personnellement je ne crois pas beaucoup. On va essayer de faire le maximum.
Il y a de plus en plus de jardins urbains.
C'est vrai. Alors on parle effectivement, d'ailleurs la maire de Paris Paris a fait beaucoup d'efforts de ce point de vue-là, et elle annonce, pour donner des chiffres, elle annonce 100 hectares végétalisés à Paris. Alors tout le monde dit c'est formidable, 100 hectares, vous nourrissez pas un demi-arrondissement, ni un quart d'arrondissement.
Donc effectivement, il y a de la marge.
Donc
il y a aussi les poules en milieu urbain, mais ça, on doit se développer à raison de 3 poulaillers. Voilà. De ci, de là, ça va être insuffisant. Manon Dugré.
Ouais, je pense que le local, ça reste quand même une tendance qui reste assez lourde, puisque en fait, en 2015, il y avait 60% de la population qui se disait prêt à mettre plus cher dans son alimentation si elle était locale. Ça fait référence un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Les mangeurs ont besoin de se réapproprier son alimentation, et consommer local, c'est une manière de se réassurer aussi. On sait que c'est pas produit trop loin. On sait qu'on peut plus ou moins connaître l'origine, qui l'a produit, etc. C'est parfois faux, mais c'est une impression qui peut être très forte. L'avantage peut-être du local et des nouvelles tendances comme l'agriculture urbaine, ça va être quand même de reconnecter le mangeur avec son alimentation et de le sensibiliser et de l'éduquer sur des enjeux, les enjeux de l'alimentation durable. Le fait de voir de plus en plus de jardins, sur le toit d'AgroParisTech, sur mon école, il y a justement des jardins sur lesquels tout un tas d'expérimentations sont faites aujourd'hui. En termes de rendement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça permette d'approvisionner les villes, même si c'est quelque chose qui va s'améliorer dans les années à venir. Par contre, l'intérêt certain, c'est que ça permet aux mangeurs de se reconnecter avec son alimentation et de se former aussi sur ces questions.
Un mot de conclusion, Pierre Hivernat.
Conclusion, moi je pense que les Français restent les Français. Je vais revenir au foie gras pour rester dans le thème de Noël. L'année dernière, il y a eu une chute de la production de foie gras qui était essentiellement due à la grippe aviaire, donc en fait à des problématiques qui étaient plus agricoles, mais on a vu aucune chute de la consommation. On a plus de 400 terroirs en France. Je pense que la tradition a encore de beaux jours devant elle.
Merci Pierre Hivernat. On vous retrouve dans l'émission Les Bonnes Choses de Caroline Brouet, c'est dimanche sur France Culture. Manon Dugré, Manger vers le futur, c'est la BD numérique.